C'est un plaisir de partager la parole. C'est un plaisir supplémentaire, ça permet d'enlever le masque. Deux versets pris dans la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 4. Je vais même lire un verset et demi, puisque c'est la deuxième partie du verset 7 et le verset 8, donc de 1 Timothée 4. Un texte que nous connaissons bien, je pense. Exerce-toi plutôt la piété. L'exercice corporel est en effet utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie pour le présent et l'avenir. Le mot piété désigne les formes concrètes de la foi, parfois dans un sens étroit, centré sur la prière et la lecture de la Bible. Lit la Bible, il prie chaque jour, comme on chantait, enfant. Mais on peut aussi prendre un sens plus large, englobant tout ce qui manifeste, exprime une vie de disciple, de croyant. Le mot piété est passé un peu de mode au profit d'un autre. L'autre, c'est quoi? C'est quoi ce mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui? Spiritualité. Oui, vous l'avez entendu celui-là, hein, on l'entend... Que dit le Nouveau Testament sur la piété? Évidemment, il dit beaucoup de choses, et je voudrais simplement souligner ce qui m'apparaît comme des axes principaux de la piété. Parce que souvent, pour nous, la piété, ça évoque des devoirs, pas forcément très drôles. Vous voyez? Lire la Bible, prier chaque jour, ça peut paraître lourd, et pas très amusant, suivant la manière dont on nous l'a enseigné. Le premier point que je voudrais développer, c'est que la piété chrétienne est fondamentalement construction de la communion avec Dieu, développement de la relation avec le Seigneur. Le cœur de la piété est la construction et l'approfondissement de notre relation au Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. En Jésus-Christ, nous découvrons que notre identité profonde est en Dieu. Plus important que les liens qui organisent notre vie humaine, comme par exemple le lien avec nos parents, il y a pour chaque être humain un lien plus fondamental, celui qui l'unit à son Créateur, à celui qui l'a appelé à la vie. Nous sommes tous nés du désir de Dieu, et il est essentiel de comprendre cela et de laisser cette réalité éclairer notre vie, comme par exemple c'est le cas chez le croyant du psaume 139. Le salut en Jésus dévoile la réalité de ce lien qui est obscurci et affecté par le péché. Même pour nous, croyants, ce n'est pas forcément très clair. Déjà, la relation à nous-mêmes n'est pas très claire. On est opaque à nous-mêmes. On n'est pas transparent à nous-mêmes, vous avez tous remarqué, j'imagine. On est parfois surpris de choses qui nous habitent et qu'on ne maîtrise pas nécessairement. Jésus nous ouvre à un chemin de libération dans une relation renouvelée avec le Père Céleste. Le Saint-Esprit, dit Paul en Romains 8, est un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba Père ». Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc la piété chrétienne s'enracine dans la relation avec Dieu et veut développer les dimensions de cette relation pour en faire une communion toujours plus vraie entre nous et le Dieu trinitaire, avec chaque personne de la Trinité. La relation qu'on a avec le Père n'est pas exactement la même qu'avec le Fils, et pas exactement la même qu'avec l'Esprit. Parce que leur rôle dans notre vie spirituelle n'est pas exactement le même. D'accord? Le Fils nous sauve. C'est pas le Saint-Esprit qui nous sauve. Le Saint-Esprit, lui, il fait à partir de l'œuvre du Fils, il fait grandir ce salut en nous. Mais chacun a son rôle, et donc chacun devrait faire l'objet d'une relation particulière avec les croyants. La piété a pour but de développer une communion toujours plus vraie entre nous et Dieu. Pourquoi c'est important de préciser cela? D'abord pour éviter deux pièges potentiels, dont le premier est l'individualisme d'une piété centrée sur soi. Il y a le danger que la piété nous fasse nous mettre dans l'attitude de la castafiore qui se voyait belle dans son miroir. Vous vous rappelez ça? Eh bien, il y a des chrétiens qui se regardent dans le miroir en disant « comme je suis belle ». Comme le pharisien, vous vous rappelez le pharisien de la parabole de Jésus? C'est un danger qui nous guette. D'ailleurs, d'une manière générale, si les évangiles nous parlent tellement des pharisiens, c'est parce que nous devons nous méfier du levain des pharisiens, dit Jésus. Et que c'est une attitude que nous pouvons avoir, et en général sans s'en rendre compte, évidemment. Nous pouvons être dans une piété centrée sur nous. Où ce qui compte, c'est ma sainteté, ma sanctification. Et ce qui compte, c'est moi et la relation que j'ai avec Dieu. Et les autres n'ont pas forcément tellement de place, même pas les autres chrétiens. Et encore moins les autres qui ne sont pas croyants. Deuxième piège potentiel, plus moderne, c'est de confondre la piété ou la spiritualité avec la réalisation de soi ou le développement personnel. Ça, vous le voyez, il y a toute une littérature là-dessus. Il y a même des croyants qui utilisent ce langage. Évidemment pas dans le même sens que les autres, mais quand même. Beaucoup de spiritualités vont dans le sens du développement personnel. Il y a toute une littérature là-dessus aujourd'hui. Si vous allez à la FNAC ou dans un truc comme ça, vous trouvez des rayons là-dessus. Développement personnel. Avec une majorité de textes, d'écrits qui sont articulés sur une religion quelconque. La spiritualité biblique n'a pas pour but premier notre développement personnel, mais elle travaille à faire de la relation au Dieu Trinitaire une communion. Une communion au sens où nous entrons dans le désir de Dieu et où le désir de Dieu devient progressivement de plus en plus important dans nos vies. La piété biblique nous décentre de nous, en fait, pour nous centrer sur Dieu et sur les autres. Pour nous ouvrir au prochain vers lequel Dieu nous envoie et qu'il nous demande d'aimer. Bien sûr, la communion avec Dieu nous fait grandir, nous fortifie, nous rend plus adultes. Mais c'est un effet de ricochet et non pas le but premier. Nous grandissons en tant qu'êtres humains quand nous grandissons notre relation avec Dieu, parce que Dieu travaille en nous quand, par la communion avec lui, nous lui permettons de travailler en nous. Deuxième point, c'est le Saint-Esprit qui produit la vie spirituelle. C'est lui qui nous met concrètement en communion avec Dieu. Le salut que Jésus a réalisé par sa vie et sa mort et sa résurrection devient une réalité de plus en plus active et présente en nous par l'œuvre de l'Esprit. Jésus nous sauve par ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Le Saint-Esprit, disent les théologiens, applique dans nos vies le salut acquis par Jésus. Ok ? Il l'applique dans nos vies aujourd'hui, ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Il le fait en travaillant notre être intérieur, et cela de plusieurs manières. D'abord, il nous éclaire sur la réalité spirituelle. Il produit ce changement de compréhension dont parle Romains 12. Le Saint-Esprit nous révèle de façon personnelle qui est Dieu à travers Jésus et quel est le contenu de l'Évangile. Il inscrit dans le chrétien cette identité de fils-fille adoptée par le Père Céleste. L'Esprit lui-même en témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes que fait le Saint-Esprit. Depuis une quarantaine d'années, ou une cinquantaine d'années, on est piégé quand on parle du Saint-Esprit, car on saute tout de suite à la question des dons, ou parfois du fruit. Mais la Bible parle du Saint-Esprit de manière beaucoup plus large que ça. Et la première chose qu'il fait dans le croyant, après l'avoir convaincu de péché, de justice et de jugement, c'est qu'il veut inscrire en nous, qu'il commence à inscrire en nous cette identité d'enfant de Dieu. Une identité qui, se superpose ou est en tension avec les autres identités que sont les nôtres, pour que cette identité devienne la plus importante. Et ça, c'est un chemin, ça tombe pas comme ça, c'est tout un cheminement pour que notre identité d'enfant du Père Céleste devienne l'identité principale de notre vie et oriente notre vie. Nos choix de vie, nos comportements. Un exemple classique, que j'aime beaucoup, Jésus dit « Aimez vos ennemis, et alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Vous voyez le rapport entre une manière de vivre et une identité de fils du Père. Ah, c'est fort, hein, surtout pour aimer ses ennemis en plus. Mais bon, c'est très important. C'est cette identité qui est source de comportement, devrait être source de comportement. L'Esprit donne aussi du discernement. Il nous aide à comprendre comment l'Évangile se vit dans nos situations personnelles et communautaires. L'Esprit travaille notre manière d'être. Il nous permet d'abandonner des comportements anciens et d'acquérir de nouveaux. Il fait pousser en nous son fruit, comme le dit Galates 5, 22. Mais évidemment, comme l'image du fruit le montre, ça ne va pas tout de suite. On ne peut pas juste cliquer, vous voyez, comme avec nos ordinateurs, pour avoir tout de suite les changements qu'on voudrait avoir. Ici, on est dans une région campagnarde, donc on sait ce que c'est qu'un un jardin, un fruit. On sait le temps que ça met entre le moment où on sème et le moment où on récolte. L'esprit, et ça c'est une grande particularité de l'évangile, est une puissance de transformation. Des discours généreux, vous pouvez en trouver autant que vous voulez. C'est pas ce qui manque dans l'histoire humaine. On a écrit de belles utopies, comme on les a appelées d'ailleurs, à partir d'un moment. La différence avec le christianisme, avec l'évangile, c'est que l'évangile est une puissance. Parce que l'esprit est une puissance de transformation du croyant. Même si, encore une fois, ça se fait par étapes, et d'une manière qui reste partielle aussi longtemps que nous sommes sur cette terre. L'Esprit fait tout cela, mais pas n'importe comment. Il utilise des moyens bien connus. D'abord l'Écriture, parole de Dieu, qui nous transmet avec fidélité la révélation de Dieu. Par la Bible, nous comprenons le projet de salut de Dieu pour le monde et donc pour nous. Nous voyons comment Dieu agit, pense et ressent, à condition de la comprendre le mieux possible, c'est-à-dire de l'interpréter à partir de Jésus-Christ. Car seul Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Comme le dit d'ailleurs l'Épître aux Hébreux, tout au début, au chapitre 1. Toutes les autres révélations que Dieu a données sont partielles et incomplètes par rapport à la révélation donnée par Jésus-Christ. Et c'est lui qui éclaire la parole de Dieu donnée avant et la parole de Dieu donnée après, comme les Épîtres et l'Apocalypse. Donc, un des moyens que l'Esprit utilise, c'est l'Écriture. Un autre moyen, c'est la prière. Jésus nous invite à nous mettre à l'écart, loin des autres, en fermant bien la porte, pour être seul avec Dieu, pour avoir un temps de communion avec Dieu. La prière personnelle est une rencontre avec Dieu. Nous sommes invités à nous exposer à sa présence. Nous sommes invités à lui dire ce que nous vivons, nos joies, nos peines, nos désirs, nos difficultés, nos peurs, nos bonheurs, bref, ce qui nous habite au moment où nous lui parlons. Nos vies sont remplies de toutes sortes de choses au point que souvent nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. On est comme déconnectés de nous-mêmes parce qu'on a la tête pleine de choses. On vit dans un monde où on court beaucoup, donc c'est devenu essentiel pour nous de nous arrêter et devant Dieu, de prendre le temps d'être à l'écoute de nous-mêmes pour être devant Dieu tel que nous sommes ici et maintenant, pour discerner où nous en sommes dans notre marche avec lui, et donc pour discerner ce qu'il convient de demander à Dieu, pour aller de l'avant. La prière est le moment de poser devant Dieu nos émotions, bonnes ou mauvaises, nos désirs, bons ou mauvais, nos questions, nos doutes, et de lui demander de nous éclairer. Nous avons besoin de ça, et nous avons encore plus besoin de ça dans certaines situations compliquées, comme celles que nous vivons aujourd'hui. Nous pouvons nous positionner par rapport à ce que nous entendons sur la situation d'aujourd'hui, liée au Covid et compagnie. Et on entend suffisamment de discours contradictoires et on peut être tenté d'en choisir un, celui qui nous rejoint le plus facilement ou celui qui correspond le mieux à ce qu'on pense à la base, etc. Mais nous pouvons aussi prendre le temps de poser devant Dieu nos questions, nos soucis, nos craintes. Il y a beaucoup de craintes aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'entends beaucoup de craintes, y compris chez les croyants. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi... C'est parce qu'on vit une période flippante. On ne sait pas très bien où on va. Beaucoup de choses ont changé en 2 ans. Si ça change au même rythme, où est-ce qu'on sera dans 2 ans? Enfin, voilà ce que je veux dire. Et objectivement, on vit une période pas très rassurante. Comment on pose ça devant Dieu pour que Dieu nous éclaire et surtout pour qu'il nous fortifie? Nous pouvons être déstabilisés par ce qui se passe autour de nous. Un des objectifs de Dieu, c'est de faire de nous des adultes qui ne sont pas déstabilisés, qui ne se laissent pas facilement déstabiliser. Un signe de maturité, nous dit Paul, c'est de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Vous vous rappelez de ça, c'est dans Éphésiens 4. Mais c'est vrai pour toutes sortes d'autres choses qui pourraient nous balloter dans tous les sens. C'est pas seulement par rapport à la doctrine, c'est aussi par rapport à nos émotions, par rapport à ce qui nous habite. Et on est tous habités par des choses plus ou moins compliquées. Pas que par ça, mais aussi par ça. Et nous avons besoin que Dieu nous fortifie intérieurement, ce qui est le but central de la prière que Paul développe dans la deuxième partie du chapitre 3 d'Éphésiens. Être fortifié intérieurement. Et Paul dit ce qui nous fortifie le plus, c'est l'amour. Cet amour qui fait que nous avons confiance dans le Seigneur, quoi qu'il nous arrive, et que nous pouvons enraciner et nous enraciner en lui, enraciner une manière d'être. Et c'est dans la prière que ces choses-là se construisent et se développent. Il ne suffit pas de les comprendre avec notre cerveau, il faut passer du temps avec Dieu, et j'aime bien cette expression, du temps pour nous exposer à la présence de Dieu, afin qu'il fasse son œuvre en nous. L'intercession est une chose importante, mais ça ne devrait pas être la forme de prière principale. Et même quand nous intercédons, ça peut être intéressant de réfléchir d'abord et de poser devant Dieu un certain nombre de choses pour qu'il nous éclaire et nous donne du discernement. Pour que nos prières ne soient pas simplement des prières pour des choses qui nous arrangent. Jacques dit, vous priez mal parce que vous priez pour votre satisfaction personnelle. C'est un piège. Et on tombe tous facilement dedans, il n'y a pas de héros par rapport à ça, c'est une démarche de ne pas tomber trop souvent là-dedans. Donc, la Bible, la prière, et un troisième moyen que Dieu utilise pour travailler en nous, c'est, je pose la question à l'Assemblée, les autres et plus spécialement, l'Église, la communauté des croyants. La communauté des croyants. D'abord l'église locale, le corps du Christ dans un lieu précis. Car comme dit Paul en 1 Corinthiens 12, à chacun, à chaque membre du corps, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Tout ça dans le but de l'édification, c'est-à-dire de construire ensemble notre foi et aussi de construire ensemble l'Église, la communauté croyante. Dieu a choisi comme mode préférentiel de nous parler, de nous bénir, de nous édifier à travers les autres. C'est son choix. C'est son choix. J'ai entendu des croyants dire que l'Église, c'est comme une roue de bicyclette où Jésus serait le centre et on serait tous, centrés sur le centre de la roue. Mais le problème là-dedans, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de liens entre les... Comment on appelle ça, c'est pour ça ? Entre les rayons. Il n'y a pas beaucoup de liens entre les rayons. Donc ça ne me paraît pas génial comme image, parce que ça ne correspond pas à 1 Corinthiens 12, de mon point de vue. Il y a du vrai quelque part, mais quand même. Dieu a choisi de nous parler, de nous bénir, de nous construire à travers les autres. Ça n'empêche pas qu'il nous parle à nous aussi. Personnellement, surtout si nous prenons le temps de prier, de nous exposer à lui. Mais n'empêche. Et tous, nous tous, avons été bénis des tas de fois par les autres. Personne dit amen ici. On a tous été bénis par les autres, chrétiens. Amen. Et, donc, comme j'ai dit, c'est vrai pour l'Église locale, mais c'est vrai aussi pour l'Église dans un sens plus large. On peut être béni par les chrétiens d'autres églises. On peut être béni par les relations directes, comme dans une communauté précise, mais aussi par des relations indirectes. On peut lire un livre écrit par un chrétien qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais, surtout s'il est traduit de notre langue, et ça nous fait du bien. C'est aussi ça l'Église. Et aujourd'hui, ce phénomène est en expansion phénoménale grâce à Internet. Avec ses bons et ses moins bons côtés, mais voilà, nous, c'est aussi l'Église par laquelle nous sommes édifiés. Alors, et l'Esprit utilise ça. Donc l'Esprit produit la vie spirituelle. Est-ce que ça veut dire qu'on est passif ? Ben non, vous le savez. Notre part, c'est quoi ? D'abord, nous sommes responsables de notre vie spirituelle comme du reste. Nous sommes invités à prendre conscience de la réalité de notre vie, par-delà les pièges de l'illusion ou du rêve. J'ai connu des chrétiens, surtout quand des jeunes convertis, qui rêvaient beaucoup. Ils voulaient être Billy Graham, par exemple. Dieu nous fait grandir par des prises de conscience. Et la parole est une des manières de prendre conscience, et les relations les uns avec les autres aussi sont une manière de prendre conscience de qui nous sommes. Jacques dit, la parole est comme un miroir. Vous vous rappelez ? Et on peut se voir là-dedans, ou en tout cas un aspect de nous, on ne se voit pas totalement, mais en tout cas, à un moment on dit, un aspect de nous est mis en évidence par le miroir. Mais on est très doué pour oublier ce qu'on voit dans le miroir. C'est ce que Jacques dit aussi. Hein. Ne soyez pas, mettez la parole en pratique, sinon vous êtes comme des gens qui sont vus dans un miroir et qui oublient ce qu'ils ont vu. Si jamais cette prédication vous perturbe ou vous parle, rassurez-vous, tenez bon une semaine, la prochaine prédication va effacer ce que j'ai dit aujourd'hui, donc vous n'en faites pas trop. Mais ceci dit, si vous avez le sentiment que Dieu vous dit quelque chose et que ça vous met en chemin dans une direction précise, amen. Mais je crains que dans les églises en général, on se dit « Ah ouais, c'était bien ce qu'il a dit, c'était moins bien. » Ça ne change rien et la semaine d'après, de toute façon, on entend autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez la parole en pratique, ça veut dire prendre... Quand on a reçu quelque chose de la part du Seigneur, qui nous a parlé, ben ça nous met en chemin. Ça ne règle pas tout de suite, ça fait pas, c'est pas une baguette magique qui transforme d'un coup un truc, en tout cas très rarement, mais ça nous met en chemin et ça demande aussi qu'on y réfléchisse, qu'on y repense, pour ne pas être oublieux et qu'éventuellement, ça nous fasse prendre des décisions. Nous sommes responsables de notre vie. Et Dieu travaille par des prises de conscience, par des discernements. Et quand on n'est pas capable de se rendre compte par nous-mêmes, eh bien, il arrive que Dieu nous envoie quelqu'un. Le meilleur exemple dans la Bible, c'est une histoire que vous connaissez tous. Un gars qui ne se rendait pas du compte de ce qu'il a fait. Il a fallu qu'un prophète lui dise. C'est David. C'est surprenant, hein, quand on lit cette histoire, mais comment David a fait pour ne pas se rendre compte qu'il débloque complètement? Ben, David a fait ce que beaucoup de rois font, hein, ce que beaucoup de tyrans font. Ils piquent la femme ils piquent les femmes dont ils ont envie. Et puis si le mari est trop gênant, on se débrouille pour s'en débarrasser. C'est un classique. Donc dans cet esprit du monde, David ne s'est pas rendu compte sur le coup qu'il était complètement ailleurs. Et le fait qu'il ait été amoureux n'était pas franchement une excuse. Mais une fois qu'il a pris conscience, c'est là qu'il a pu agir, réagir de la bonne manière. Dieu travaille par des prises de conscience. Un autre qui n'a pas eu tout conscience de qui il était, c'est le Nouveau Testament, et il a vécu une expérience extrêmement pénible qui lui a montré qui il était vraiment, et c'est Apôtre Pierre, bien sûr. Tous les autres peuvent se lâcher, mais moi pas. C'est sympa pour les autres. Hein. Moi pas. Moi, je suis prêt à mourir. Et personnellement, je pense qu'il était totalement sincère. Sauf qu'il ne s'était pas rendu compte, il ne s'est jamais pas rendu compte de qui il était vraiment, de ce qu'il habitait vraiment. Et donc, quand il a été confronté à l'épreuve, il s'est dégonflé, comme nous le savons tous. Et une fois qu'il a fait cette prise de conscience, au lieu d'aller se pendre comme un autre, il a eu ce temps de discussion avec Jésus où il a été rétabli dans son rôle de berger des brebis. Parce que les prises de conscience ne sont pas là pour nous humilier. Enfin, la prise de conscience, c'est sur un truc pas top. C'est pas là pour nous humilier, c'est là pour nous faire avancer. Si Pierre était resté le type froussard, avec cet élément de frousse en lui, il n'aurait jamais pu avancer et devenir l'apôtre qu'il est devenu et le chef de la communauté qu'il est devenu ensuite. Il arrive simplement que, dans notre chemin, il faut poser devant Dieu des choses pas agréables. Et savoir se repentir, c'est-à-dire de dire devant Dieu la vérité de qui nous sommes, quand il y a des aspects pas très clairs. Nous pouvons le faire parce que Dieu nous aime, et nous pouvons le faire parce que c'est la vérité de ce que nous sommes. Dès que nous sommes en dehors de la vérité de qui nous sommes, nous n'avançons plus, sur ce point précis en tout cas. Nous faisons du surplace. L'autre côté, c'est la relation avec les autres. Je peux dire, celui-là m'énerve. Ok ? Tel frère m'énerve. Bon, telle sœur. Je peux dire, il est pénible, c'est sa faute, c'est lui. Ou je peux dire, qu'est-ce qui en moi fait que je m'énerve ? Vous voyez ? Qu'est-ce qui fait que je suis énervé ? J'ai vécu une expérience très intéressante quand j'avais 17 ans. J'étais dans un camp d'évangélisation, et puis dans ce camp est arrivé avec un retard de 3 jours un jeune, et pour une raison que je connais absolument pas encore aujourd'hui, il m'a déplu tout de suite. On n'avait pas encore ouvert la bouche, on ne s'est pas encore dit bonjour, il m'a déplu tout de suite. Alors j'étais en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe Seigneur? Qu'est-ce qui te débloque pour que je sois comme ça? Je ne sais toujours pas pourquoi il m'a... J'étais dans cette attitude-là, mais j'ai prié. Et puis le Seigneur a réglé la chose assez rapidement aussi, parce qu'on s'est parlé. Donc plutôt que de se faire des idées en regardant quelqu'un, en se parlant, on se connaît un peu mieux. Le plus marrant de cette histoire, c'est qu'il était né exactement le même jour que moi. C'était vraiment marrant, quoi. Après, on est devenus de bons amis. Malheureusement, il a lâché la foi suite au décès de sa maman, mais voilà. Mais on peut dire, ah, les autres, oh, lui, elle. Et on peut dire devant Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait qu'en moi, qu'est-ce qu'il y a en moi pour que je réagisse comme ça? Vous voyez? Les autres sont d'excellents spots sur qui nous sommes, si nous voulons prendre ça au sérieux. Pourquoi je suis jaloux? Parce que lui, il est comme ça. Pourquoi je suis, je sais pas, en colère? Parce que, enfin bref. Vous voyez ce que je dis ou pas, là? Je parle dans le désert ou ça vous dit quelque chose? Voilà, les autres sont un excellent moyen de prendre de prise de conscience, à condition qu'on ait l'honnêteté de se poser la question par rapport à soi et pas juste de dire c'est la faute des autres. Donc, notre part, nous sommes responsables de notre vie, responsables d'être connectés à ce que nous sommes, de prendre au sérieux les signaux qui nous sont donnés par les autres, de prendre au sérieux ce que l'Écriture nous dit à certains moments de manière plus évidente. Et puis nous sommes aussi responsables, j'ai dit avant que c'est le Saint-Esprit qui produit la vie spirituelle, nous sommes responsables de consentir à l'œuvre du Saint-Esprit en nous, et d'y consentir activement, d'abord par la prière. Le Saint-Esprit, il est comme Jésus, il est extrêmement poli, et il reste à la porte aussi longtemps qu'on ne lui dit pas « fais ton boulot, entre et travaille dans mon cœur ». Vous connaissez cette... Jésus tape à la porte, hein. Si on l'ouvre, il rentre. Alors tant qu'on interprétait ça en disant « c'est pour les païens qui doivent se convertir », super. Le problème dans le texte, c'est que c'est à des chrétiens que Jésus parle. Et notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu, demande que nous nous investissions. Toute relation, si on veut la garder vivante, demande qu'on s'y investisse, non? On a besoin d'investir notre relation avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos amis, avec... Sinon, ça se délite. Un ami avec qui je ne prends plus de contact, plus de nouvelles, plus rien pendant des mois et des mois, au bout d'un moment, ça se délite. C'est clair. Même si avant, on avait des moments super. J'ai besoin de passer du temps avec mes enfants, avec mon conjoint, avec d'autres, pour que la relation reste vivante et même se développe. C'est pareil avec Dieu. Dieu refuse d'être un tireur de marionnettes. Oui. Il demande qu'on soit d'accord avec lui qu'on redise régulièrement notre accord pour qu'il fasse son œuvre en nous et notre désir qu'il fasse son œuvre en nous. Désirer, c'est encore mieux. Consentir à l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que nous faisons chaque fois que nous prions notre Père, parce que de trois manières différentes, nous disons que nous sommes d'accord avec l'œuvre de Dieu et que nous souhaitons que cette œuvre de Dieu se poursuive. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est trois manières de se centrer, de se décentrer de soi pour se centrer sur le projet de Dieu et sur le plan de Dieu, y compris pour ma vie. Oui ? Dans la Bible, il y a des choses qui sont écrites une fois. Quand on a envie que ça rentre, on le lit deux fois. Et quand c'est super important, on le lit trois fois. C'est un principe d'interprétation. Et là, franchement, c'est dit trois fois. Trois fois, on dit globalement la même chose. Le mot consentir est faible, il faudrait dire désirer, vouloir, aspirer. La vie spirituelle met en jeu notre désir. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Mais pas juste pour se convertir, pour l'ensemble de la vie spirituelle. Si quelqu'un a soif de progresser avec Jésus, qu'il vienne, qu'il prie, qu'il lise la parole de Dieu, qu'il invite le Seigneur à travailler dans son cœur, à l'éclairer et à travailler dans la profondeur de la personnalité. La vie spirituelle met en jeu notre désir, elle interpelle la réalité de ce désir et sa force par rapport aux autres désirs qui nous habitent. Il y a des tas d'autres désirs positifs qui nous habitent, hein, ils ne sont pas tous mauvais. Hein. Mais comment ce désir de grandir avec Dieu, de grandir dans la communion avec lui et d'être un de meilleurs disciples? Comment ce désir, où est-il placé dans l'échelle de nos désirs, de nos différents désirs? Et je termine ce point en disant, nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas produire la vie spirituelle par notre propre fond. Mais il nous appartient de nous approcher de celui qui est capable de le faire, qui est capable de nous transformer, même si ça reste de façon partielle sur cette terre. et il faut aussi commencer à faire des choses. Commencer à se mettre en route, même si on ne voit pas forcément le but, même si on ne sait pas comment ça va se passer, même si on ne connaît pas les étapes du chemin, il faut de temps en temps se mettre en route. Si je veux aimer mon ennemi, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un chemin qui va m'interpeller, qui va me perturber, qui va poser des tas de questions sur mes réactions basiques et primaires, etc., etc., etc. C'est un chemin. Mais ce chemin, il faut le commencer un jour. Et c'est aussi dans ce chemin-là que nous pouvons connaître la puissance de Dieu. Galates, Paul dans Galates dit, parle de la vie spirituelle comme d'un homme qui sème. Il nous invite à semer pour les choses éternelles et pas pour les choses de la chair. Vous vous rappelez ça? C'est au chapitre 6. Et donc il nous faut semer de toutes sortes de manières, même si ce n'est pas nous, même si la croissance et le développement ne dépendent pas de nous, en tout cas pas de nous seuls. Quelques remarques pour terminer. L'œuvre de l'Esprit en nous n'est pas arbitraire, elle ne va pas dans n'importe quelle direction. L'œuvre de l'Esprit a pour but la communion avec Dieu, le développement de l'amour pour Dieu et pour les autres. Et un but qui est aussi de ressembler de plus en plus dans notre manière d'être, et pas seulement dans nos attitudes, mais aussi dans nos attitudes, mais d'abord dans notre manière d'être, de ressembler à Jésus. C'est lui le modèle de la vie spirituelle. C'est lui qui est à l'horizon de notre chemin de foi et de progression. La piété chrétienne n'est pas planante. Elle ne nous fait pas quitter la réalité et ses contraintes. Au contraire. La piété privilégie des moments où nous nous mettons à l'écart pour être mieux à l'écoute de notre réalité, de ce qu'il y a en nous, pour le poser devant Dieu et pour discerner notre chemin. C'est clair que le développement de la piété peut passer par des moments difficiles, au travers d'épreuves et de souffrances. Surmonter ces peurs, c'est jamais simple, surtout quand ces peurs sont profondes, quand elles viennent de loin de notre histoire. Et ça peut être, on peut souffrir dans ce chemin-là. La vie spirituelle n'est pas forcément un chemin agréable. Comme dit Jésus, le chemin est étroit. Il y a des luttes, il peut y avoir des blocages, des résistances, des doutes, des marches arrière, des reniements. Oui. Et, frères et sœurs, l'important n'est pas de savoir si on est très avancé sur ce chemin, si on est près de la main, c'est de savoir qu'on y est. Et qu'on avance sur ce chemin. Donc tout ça nous dit aussi que toutes les formes de vie spirituelle ne se valent pas. Il nous faut développer prioritairement ce qui contribue le plus à la construction personnelle de notre vie spirituelle, à la ressemblance de Jésus, et aussi ce qui contribue à la construction de la communauté. Si l'apôtre Paul parle tellement du corps du Christ dans 1 Corinthiens 12, c'est qu'il est confronté à des Corinthiens qui sont tentés par une piété mystique, individuelle, où on se compare les uns aux autres. Regarde comme je parle bien en langue. Écoute comme j'ai de belles prophéties. Et il y a des tensions autour de ça chez les Corinthiens. L'apôtre Paul met la communauté au centre pour éviter ce genre de dérive. Je reprends en conclusion, la piété biblique se fonde sur la relation à Dieu rendue possible par Jésus. Une relation qui est invitée à devenir communion. Vous voyez la différence entre relation et communion ? Une relation qui est invitée à devenir communion avec Dieu Trinitaire. Cela est possible par l'œuvre de l'Esprit en nous. Mais c'est une œuvre qui respecte nos choix. Et donc c'est une œuvre à laquelle il nous faut consentir pour qu'elle se développe. Il nous faut désirer. Car nous restons quelque part maîtres de nos choix. Et Jésus le respecte. Dieu le respecte. La piété biblique a un but, ressembler de plus en plus au Christ dans notre manière d'être et d'agir, notamment avec les autres. Elle est communautaire. Elle nous invite à nous accueillir les uns les autres comme autant de cadeaux que Dieu nous fait. Eh bien, que nous puissions développer chacun et ensemble une telle piété. Amen.